Crise sanitaire, crise écologique, crise socio-économique. À l'heure actuelle, plusieurs crises percutent notre quotidien. Ces crises révèlent des fractures, anciennes et nouvelles, qui mettent à l'épreuve l'organisation de nos sociétés. Et leur articulation témoigne d'un ensemble d'enjeux structurels dont les causes sont profondes et complexes. Difficiles à traverser, ces crises redéfinissent néanmoins le champ des possibles. Elles appellent ainsi à l'action citoyenne, à la mise à l'épreuve des cadres de pensée et à la transformation des dispositifs et des logiques en place. Les crises, ces crises, se présentent comme des moments propices à la création, l'expérimentation et l'innovation sociale pour redéfinir une société sur des bases plus solidaires, plus justes et plus équitables. Depuis plus de 30 ans, les chercheuses et les chercheurs du CRISE étudient les innovations sociales comme vecteurs de transformation sociale. Que peuvent nous apprendre ces années d'enquête sur les conditions des crises actuelles? Quelles possibilités et quelles modalités de sortie de crise ces études nous permettent-elles d'envisager? Quelle distance critique ces travaux de recherche permettent-ils vis-à-vis de la temporalité et de l'actualité immédiate de ces crises? C'est ce à quoi vous convie ce balado du CRISE. Dans cet épisode, le CRISE vous invite à découvrir les travaux de recherche de Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration de la TELUC. Spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail, ses plus récentes recherches portent sur les nouvelles formes d'organisation du travail, telles que le télétravail ou les espaces de travail collaboratifs, ainsi que sur la conciliation travail-famille-vie personnelle. C'est à partir de ces thématiques que la professeure Tremblay pose un regard critique sur le contexte actuel et ses diverses crises, ainsi que sur les formes d'innovation sociale qui émergent pour y faire face. En quoi la crise actuelle agit-elle comme révélateur d'un enjeu structurel, d'une problématique, d'une tendance préexistante?
En réponse à la question de savoir comment la crise actuelle agit comme révélateur d'un enjeu structurel préexistant ou d'une tendance que j'ai étudiée, j'aimerais proposer les thèmes du télétravail, du travail des femmes et de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle familiale ou encore conciliation emploi-famille. Je crois que ce sont des enjeux majeurs qui ont fait apparaître des enjeux structurels existants précédemment et qui persisteront certainement dans l'année à venir. J'ai fait un grand nombre de recherches sur le télétravail et sur les nouveaux modes d'organisation du travail, incluant les espaces de travail en aire ouverte, qui ont récemment été mis de l'avant dans les organisations, dans le contexte des analyses des dernières années sur les innovations et les transformations sociales. Parmi les enjeux qui ressortent, les inégalités dans le travail et l'emploi, et notamment les bas revenus de nombreuses femmes dans les services et les soins aux aînés, mais aussi d'autres travailleurs peu qualifiés, les livreurs à vélo, comme ceux pour Uber Eats ou Deliveroo, par exemple. Donc, un grand nombre de personnes qui ont été au front ou au devant de la scène de la crise de la COVID et qui, aujourd'hui, ont quand même moins accès au télétravail pour se protéger du virus ou alors qu'ils n'y ont pas du tout accès. Il y a donc clairement des inégalités dans l'accès au télétravail, donc dans la protection à l'endroit du virus. Le télétravail s'est clairement imposé à plusieurs personnes, alors qu'auparavant, c'était une situation volontaire. Environ 10 % de personnes faisaient du télétravail. Aujourd'hui, on en est à 40 %. Ça va peut-être diminuer un peu dans les prochains mois, mais clairement, le contexte et les effets sont tout à fait différents. Pourtant, on observe que de nombreux travailleurs, dont des femmes d'ailleurs, se disent satisfaits du télétravail. Environ 70 % selon une enquête menée dans le contexte de la crise, contre plus de 95 % auparavant, alors que tous les gens étaient volontaires. La plupart de ces personnes en télétravail, environ 50 % au Québec, 44 % au Canada, selon un sondage léger, aimeraient clairement continuer de profiter du télétravail, mais pour la plupart, ces personnes ne souhaitent pas faire du télétravail à plein temps, plutôt 2 ou 3 jours par semaine ou alors 1 ou 2 semaines par mois. Évidemment, les femmes dans les commerces de détail, la santé, l'hôtellerie et la restauration ne peuvent profiter du télétravail. Et celles dans la santé et le commerce de détail sont au contraire en première ligne, comme on l'a bien vu dans les derniers mois. La crise a donc bien révélé des inégalités en matière de travail et d'emploi, ainsi que dans le soutien à la conciliation emploi-famille ou vie personnelle, vie professionnelle. En principe, les services de garde étaient maintenus pour les travailleurs et travailleuses essentiels, mais cela laissait tout de même plusieurs personnes sans services de garde pendant la crise. Un certain nombre de services privés et familiaux, d'ailleurs, n'auront peut-être pas survécu, alors que le gouvernement pense à accélérer les investissements en infrastructures pour relancer l'économie. Il semble que l'on envisage très peu les infrastructures qui reposent sur des emplois féminins. Ce sont plutôt des infrastructures faisant appel à des emplois majoritairement masculins, c'est-à-dire la construction d'édifices, de routes et autres du genre, et non pas les infrastructures de soins ou de care, par exemple, du personnel pour les services de garde, les soins aux aînés à domicile et autres de ce type. La crise fait donc ressortir l'importance de prévoir des services de garde et de soutien pour les proches aidantes, notamment, en contexte de pandémie et après.
La crise actuelle agit-elle aussi comme accélérateur? En quoi est-elle susceptible de changer la configuration ou d'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour des innovations sociales?
La crise actuelle agit clairement comme un accélérateur et elle ouvre une fenêtre d'occasion pour des innovations sociales dans différents domaines. On a vu que la pandémie a fait exploser le pourcentage de télétravailleurs à 40 % de la main-d'œuvre canadienne et québécoise, selon les données de Statistique Canada en mai 2020, alors qu'on était à maximum de 10-15 % avant la crise. On peut penser que le taux reviendra à 25-30 % par la suite. Par ailleurs, alors que les entreprises proposaient de plus en plus des aires ouvertes pour le travail et que la fonction publique s'y était mise encore plus récemment, ce mode d'aménagement des bureaux est remis en question, car il ne peut satisfaire les exigences de 2 mètres de distance entre les travailleurs et il exigerait aussi des désinfections très fréquentes, car le modèle fonctionne souvent sur la base de l'absence de places de travail assignées. Ainsi, je pense qu'on ira clairement vers un modèle de travail hybride ou mixte qui offre la possibilité de faire du télétravail pour les personnes qui le souhaitent, 2 ou 3 jours par semaine ou plus, selon les préférences idéalement, tout en maintenant un certain nombre d'espaces de travail à bonne distance pour des réunions ou des passages au bureau. L'enjeu sera de continuer à assurer le caractère volontaire du télétravail, d'éviter l'obligation de faire du télétravail en permanence 5 jours par semaine, du moins à moyen et à long terme. Dans nombre d'entreprises où des salariés souhaitaient faire du télétravail, on leur disait que c'était impossible. Maintenant, la preuve est faite que non seulement c'est possible, mais la productivité et la performance n'en ont pas souffert. Dans beaucoup de cas, on a aussi observé une qualité du travail accrue grâce à une concentration accrue. Sauf bien sûr si les enfants sont à la maison, comme ce fut le cas de mars à juin et même pendant l'été pour certaines personnes. D'autres avantages du télétravail, clairement, pour les individus, moins de perte de temps en déplacement, pas besoin de prendre les transports en commun en contexte de pandémie. Et pour certains, en temps normal, cela peut se traduire aussi par une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. En général, on a plus de flexibilité dans l'organisation de son temps de travail, sauf évidemment si on travaille dans un centre de service ou un centre d'appel avec des horaires fixes. Par contre, il faut bien voir qu'il y a des inconvénients et il faudrait clairement faire attention à cela dans les organisations. Il y a le risque de voir le collectif de travail s'effriter. Et de fait, les gens en télétravail disent parfois manquer la dynamique du travail collectif. Les collègues, les femmes un peu plus que les hommes d'ailleurs, 17 % de femmes par rapport à 14 % d'hommes environ, se disent se sentir isolées. On constate aussi que certaines personnes vivent un conflit entre la vie professionnelle et la vie familiale. Environ 5 % seulement. Évidemment, dans le contexte où les enfants étaient présents à la maison, on aura des taux beaucoup plus élevés. Par contre, en temps normal, ce risque de conflit entre la vie professionnelle et la vie familiale n'était que d'environ 5 % et de fait, il se réduit au fil du temps, au fur et à mesure que les gens s'habituent. Par contre, certaines personnes reconnaissent qu'il y a un risque de débordement du travail dans le temps et dans la vie personnelle. Certaines personnes disent avoir de la difficulté à se motiver en l'absence du collectif de travail. Donc, il faut compenser ou prévoir des passages au bureau. D'autres personnes disent vivre des difficultés avec les technologies, environ 5 % avant la crise, sans doute davantage pendant la pandémie avec la surcharge des réseaux, même si Internet a tout de même bien tenu le coup et a permis des échanges en ligne, en visioconférence notamment. Alors, la crise ou pandémie a permis de montrer l'insuffisance des services de garde en contexte de pandémie et permet de bien montrer que ces services sont essentiels à un exercice correct du télétravail qui permet d'assurer le bien-être des salariés et qui évite ainsi de faire augmenter leur stress. Par ailleurs, la crise a conduit à remettre en question le modèle d'aménagement des bureaux en aire ouverte, en raison des risques de contagion dans ce type de contexte. Les espaces de coworking et les aires ouvertes sont donc en ce moment en train de se remettre en question, de se réorganiser. Alors que les entreprises affirmaient que ces espaces ouverts permettaient plus de collaboration, plus d'échanges, plus de créativité et d'innovation, elles reviennent un peu sur cette vision et certaines ont imposé le télétravail pendant plusieurs mois et vont continuer de le faire à l'automne. Il faut donc espérer que l'on pourra voir une fenêtre d'opportunité ou des occasions pour un meilleur aménagement des temps et des espaces de travail, un sujet sur lequel je travaille depuis un grand nombre d'années, et on peut espérer aussi qu'il y aura une meilleure équité en matière de travail et d'emploi des femmes.
Et pour conclure, la crise actuelle peut-elle déboucher sur un monde d'après? En quoi et à quelles conditions?
Finalement, pour la question à savoir si la crise actuelle peut déboucher sur un monde d'après, ou en fait, on dirait un meilleur monde, c'est difficile à dire. Les prochains mois seront clairement révélateurs des enjeux majeurs en matière de travail et d'équité en emploi pour les femmes, car on le sait, les femmes ont été à la fois aux premières lignes des services offerts en contexte de pandémie, mais aussi les moins soutenues en matière de travail domestique et familial. En effet, le contexte de télétravail semble avoir donné lieu à un recul en matière de division sexuelle du travail et de soutien des hommes, des pères, au travail de reproduction. Ceci reste à documenter, mais pour le moment, on a tout de même un certain nombre de sondages préliminaires. Un certain nombre de recherches sont aussi en cours. Alors, on ne peut conclure pour le moment, mais il y a tout de même des indications relativement claires que dans beaucoup de cas, les hommes sont retournés au travail à l'extérieur du domicile et les femmes sont restées au domicile et se sont occupées des enfants, bien sûr, mais aussi de l'ensemble du travail de reproduction. Clairement, les femmes assurent la reproduction par le biais du travail de soins aux enfants et aux proches également. Elles sont beaucoup plus fréquemment proches aidantes que ça n'est le cas pour les hommes et elles ont des tâches beaucoup plus lourdes sur ce plan. Il semble donc qu'elles aient vu un recul dans la division du travail entre conjoints dans les derniers mois et on verra si cela persistera ou se rétablira. Les prochains mois seront donc révélateurs, car on saura aussi combien de services de garde privés et familiaux demeurent en activité et s'il est possible d'assurer l'accès aux services de garde pour l'ensemble des femmes, quelle que soit la profession, et l'accès au télétravail. Car le télétravail est plus souvent offert aux cadres et aux professionnels, alors qu'il est parfois moins offert aux femmes en position subalterne ou alors à plein temps pour l'entrée de données, de textes ou lorsque ces personnes travaillent en centre d'appel. Il y a donc des inégalités importantes dans l'accès au télétravail, ce qui est problématique dans le contexte de pandémie actuelle, mais aussi en termes de qualité de vie au travail et hors travail par la suite. On peut donc envisager la progression ou non de deux innovations sociales ou innovations dans le travail dont il faudrait s'assurer la diffusion de manière équitable. Premièrement, assurer plus d'universalité des services de garde. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ils ne sont pas parfaitement universels. Comme nous le montrons dans un article à paraître avec une collègue, clairement, la crise a encore réduit l'accès aux services de garde qui n'étaient pas parfaitement équitables ou universels. Deuxième élément, assurer l'offre la plus équitable possible du télétravail comme innovation organisationnelle ou innovation en matière de travail et d'emploi. et veiller à ce que les employeurs assument leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail et de soutien aux personnes en situation de télétravail. Clairement, ceci amènera des discussions ou des négociations plus importantes sur l'installation à domicile, des équipements ergonomiques, également possiblement sur des remboursements de l'employeur pour des frais occasionnés par l'installation en télétravail à domicile. Qu'il s'agisse des frais de chauffage pour l'hiver, les frais d'électricité, un ensemble de frais qui sont déjà remboursés par certains employeurs, mais pas du tout par l'ensemble des employeurs. Le monde d'après, où on peut espérer un monde meilleur, sera sans doute composé de plus de télétravail, mais sans doute dans un modèle hybride qui combinerait du présentiel et de la distance, idéalement 2-3 jours par semaine, lorsque la situation sera revenue à la normale, pour assurer le dynamisme des équipes, la collaboration entre les équipes, la créativité et l'innovation. Déjà, un certain nombre de salariés soulignent qu'ils trouvent que, au fond, les réunions d'équipe, la collaboration, les échanges spontanés en milieu de travail autour de la machine à café, ce sont des choses qui leur manquent. Donc, on peut espérer qu'effectivement, on reviendra à du télétravail 2 ou 3 jours par semaine. Par ailleurs, on peut penser aussi que des espaces de coworking seront utilisés, des espaces de coworking qui seraient plus près des domiciles des personnes. Cela permettrait d'éviter l'isolement en situation de télétravail et aussi de maintenir la dimension sociale du télétravail. Nous avons récemment publié un article dans la revue Organisation et Territoire sur le coworking et nous évoquons cet aspect sur l'importance, au fond, de développer la présence de salariés pour éviter leur isolement en situation de télétravail. On peut donc espérer un monde meilleur dans la post-pandémie, l'après-COVID, mais évidemment, il faudra être vigilant sur ces questions pour tenter d'améliorer les situations en matière de travail, de télétravail, de travail des femmes également.
Nous remercions la professeure Diane Gabrielle Tremblay de l'École des sciences de l'administration de la TELUC pour sa participation à Crise, le balado-diffusion du Centre de recherche sur les innovations sociales. Pour en savoir plus sur les travaux de notre invité, nous vous invitons à consulter les références fournies au bas du descriptif de cet épisode. Pour connaître les activités du Crise, rendez-vous au crise.ucam.ca.